Médialogue. Bienvenue en Médialogie. Médialogue. Antoine Roux.
Il y a eu le Turc mécanique. Ça, c'était en 1770. Cet automate jouait aux échecs contre des humains. Enfin, jouait aux échecs. C'était un canular. Il était manipulé par un marionnettiste planqué sous la table. Puis les ordinateurs sont arrivés. La recherche en intelligence artificielle a cherché, puis elle a trouvé, elle a développé, elle a peaufiné jusqu'à finalement battre l'humanité aux échecs, pour de vrai, cette fois, au jeu de Go aussi. Aujourd'hui, l'IA est définitivement sortie des laboratoires. Elle s'appelle ChatGPT ou Bard et elle fait bien plus que de jouer avec vous. Elle écrit pour vous, elle résume pour vous, elle illustre pour vous, elle synthétise pour vous. Vous êtes prévenus, il va y en avoir partout. Tactique médiatique et coulisses de l'info, merci de nous faire une place jusqu'à 9h dans votre poste de radio.
Médialogue. Sur la première.
François Fleuret, bonjour.
Bonjour.
François Fleuret, vous êtes professeur à l'université de Genève, à l'EPFL. Aussi, votre spécialité, c'est le machine learning, la manière dont les programmes informatiques apprennent des choses par eux-mêmes. C'est une bonne définition, ça, de l'intelligence artificielle, François Fleuret, quand des programmes informatiques apprennent des choses par eux-mêmes?
Alors ça, c'est la définition actuelle, un peu moderne. C'est vrai que le terme intelligence artificielle a évolué, mais aujourd'hui, on va dire, quand on utilise ce terme-là, c'est ça qu'on pense, ouais. Techniques qui apprennent.
François Fleuret, je vous ai invité ce matin pour prendre le temps de parler de ces nouvelles intelligences artificielles basées sur le langage naturel. Elles défraient la chronique ChatGPT de la société OpenAI. Il y a aussi Bard par Google qui est dans les starting blocks. C'est vraiment ça qui pousse l'IA dans une nouvelle ère. On lui parle, elle nous répond, elle semble maîtriser le langage.
Alors, c'est effectivement, en tout cas, ChatGPT qui a un impact qu'on avait rarement vu. C'est-à-dire que on voit que là, ça arrive dans toutes les couches, j'ai envie de dire, de la société. Tout le monde est intéressé, tout le monde est excité. Mais après, les technologies sous-jacentes touchent à d'autres sujets. C'est-à-dire la génération d'images, génération de musique, analyse d'images, véhicules autonomes. Donc, les modèles de langage offrent des possibilités encore plus intéressantes. C'est-à-dire, je pense que c'est de ça qu'on va parler. Mais la technologie sous-jacente touche à plein d'autres domaines, en fait.
Bon, ce que vous dites quand même, François Fleuret, c'est que les digues ont lâché en matière d'IA aujourd'hui. Vous me l'avez dit, cette année sera particulièrement intéressante. Pourquoi ?
Alors, moi, ce que je trouve remarquable, c'est à quel point il y avait une espèce de défiance. On va dire des gens vis-à-vis de l'IA, et là je trouve incroyable à quel point c'est tout le monde embrace, comme on dit en anglais, embrace ChatGPT. C'est-à-dire que je trouve ça extrêmement surprenant. Mais là c'est pas le chercheur en IA qui parle, c'est plutôt le citoyen et l'homme de la rue. Je trouve incroyable à quel point tout le monde a envie et est content d'utiliser ChatGPT.
Et c'est vrai que ça fait bizarre de s'inscrire, de poser des questions, et puis d'avoir des réponses comme ça qui sont vraiment fluides, qui sont vraiment naturelles, mais qui ne sont pas toujours vraies. On va le voir avec vous d'ici 9h. En tout cas, François Fleuret, moi j'ai demandé un coup de main à ChatGPT pour préparer cette interview aujourd'hui. J'ai soumis un prompt à la machine, je lui ai donné un ordre donc. Donne-moi 5 questions à poser à un professeur d'université spécialiste en machine learning à propos de ChatGPT. Alors la première question que la machine m'a fournie, c'est: pouvez-vous nous en dire plus sur les algorithmes de traitement du langage utilisés dans le développement de ChatGPT? Alors bon, personnellement, moi je la trouve un peu trop vague cette question, hein. Nous en dire plus, c'est pas assez précis. Je reformule donc: quelle différence de fonctionnement y a-t-il entre une IA comme ChatGPT et une intelligence artificielle qui joue aux échecs ou aux jeux de Go?
Alors déjà, entre les intelligences artificielles qui jouent aux échecs historiquement, donc celles qui avaient battu Kasparov, et les IA qui jouent au Go, il y a déjà vraiment une différence technologique colossale. C'est-à-dire que les IA qui jouent aux échecs, et qui étaient assez fortes pour battre les humains, n'utilisaient pas d'algorithme d'apprentissage. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle les algorithmes de recherche en arbre. En gros, ils utilisent purement la puissance de calcul pour imaginer des millions de coups à l'avance, et enfin des millions de coups possibles et des dizaines de coups à l'avance pour trouver le meilleur coup à jouer. Pour le Go, c'était différent, et là c'était déjà dans l'ère de l'IA moderne avec de l'apprentissage, donc post 2012 on va dire, puisque c'est un peu à ce moment-là que tout a commencé à changer. Le Go étant d'un point de vue combinatorial beaucoup plus compliqué que les échecs, on peut pas utiliser le même genre d'algorithme. Donc on est obligé d'utiliser ces méthodes de réseau de neurones qui développent une espèce d'intuition par apprentissage de la valeur d'un coup. C'est-à-dire que AlphaGo, le fameux, est capable, entre guillemets, de regarder un Goban et de se dire « ça, c'est une bonne position ». Et on y reviendra certainement, on ne sait pas trop comment il fait. On sait juste que on a un gros réseau de neurones, on lui rentre le Goban en entrée et à la fin, il nous dit « ça, c'est un bon Goban ou un mauvais Goban ». Après, le lien entre ces techniques-là et les techniques de langage, donc le ChatGPT.
Donc aujourd'hui.
Exactement. Il y a vraiment un corps de technologie qui est commun, ce qu'on appelle les modèles profonds, les gros réseaux de neurones. Après, je ne sais pas à quel point on va entrer dans le détail, mais c'est un peu des technologies différentes parce que ChatGPT ne cherche pas c'est ça qui est bizarre, il optimise pas un objectif. C'est-à-dire que un programme de Go, il veut gagner. Donc, il a un but précis, il a une fonction qu'on appelle le coup qui est précise, il veut gagner. À la fin, il veut être le vainqueur. ChatGPT, c'est un peu différent. Il produit du contenu. Il essaye d'imiter ce que dirait un humain. Donc,
il devine un mot après l'autre, ce qui donne des phrases à la fin.
Alors là, à nouveau, il y a un peu de philosophie, mais deviner est un terme qui est un peu ambigu parce qu'on a l'impression qu'il y a un bon mot.
Alors, il choisit statistiquement quel est le meilleur mot à placer après le mot précédent.
Exactement. Ce serait vraiment un alien qui veut se faire passer pour des humains.
Ah bon?
Qui veut se faire passer pour un humain. Il a écouté plein d'humains. Il se dit, en général, après ça, ils disent ça, donc je sais ce que je vais faire. Je vais le tenter comme ça. Mais il essaye juste d'imiter des régularités statistiques. Il a pas de but. Il se dit pas, je veux que mon interlocuteur comprenne. Il se dit pas ça. Il se dit juste, qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'air le plus humain possible, si je puis dire.
Ouais, donc vous dites que vous comparez à un alien qui aurait écouté plein d'humains. ChatGPT, il a écouté, entre guillemets, combien d'humains. Il se base sur quelle masse de données pour deviner quel mot placer après quel mot pour faire des phrases et finalement des textes.
Alors, c'est là le nerf de la guerre, c'est que, donc historiquement, l'intelligence artificielle, si on remonte aux origines, on pensait développer des techniques en réfléchissant et en se disant, en ayant une impression subjective, on se disait « Ah, mon cerveau fonctionne comme ça, donc je vais faire un programme qui fonctionne pareil ». Ça, en gros, ça ne marche pas. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est des programmes très simples, mais qui sont entraînés sur énormément de données. Donc c'est là qu'on arrive à votre question, quelle est la quantité de données et quelles sont ces données ? Alors, ChatGPT, c'est un produit d'OpenAI. OpenAI, contrairement à ce que le nom laisse penser, n'est pas open du tout. Donc, il y a un peu, on ne sait pas trop.
Il y a du pognon derrière.
Il y a beaucoup d'argent. Là, je pense qu'en ce moment, il y a une hystérie totale pour ça. Mais en gros, on sait que ChatGPT reprend essentiellement un autre système qui est GPT-3, qui date de 2020.
Oui, mais combien
voilà. Et GPT-3 a été entraîné. Donc là, il y a à peu près de documentation. Essentiellement, on va dire, pour faire simple, 200 fois tout Wikipédia en anglais, en volume. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des bases de données, de blogs. Ils ont à peu près pris des bases raisonnables, donc des unis américaines, Wikipédia, des bases de données de romans et autres. Et c'est l'équivalent de 200 fois tout Wikipédia en anglais.
Mais pourquoi est-ce qu'il se trompe alors? Pourquoi est-ce que certaines fois il dit que Hillary Clinton a été présidente des États-Unis, par exemple?
Oui, donc là, la fameuse question, quelqu'un lui demandait quelle est la taille moyenne des femmes présidentes des États-Unis. Alors le truc, c'est que...
Mais il répond quoi, alors?
Il liste, donc il suit la musique, il se met à inventer quatre femmes présidentes des États-Unis.
Il invente. Hillary
Clinton. Bah oui, puisque, enfin, autant que je sache, il n'y a pas eu de femmes présidentes des États-Unis, donc, mais il ne se laisse pas démonter, il dit voilà, il y a eu quatre femmes présidentes des États-Unis et elles faisaient telle taille, donc la moyenne était telle taille. Parce qu'il faut comprendre, alors après je sais pas à quel point on entre dans la technique, mais...
Laissez-vous aller, puis je vous guide.
Exactement,
si
vous m'interrompez. Donc vraiment, ces systèmes fonctionnent de la manière suivante. Ces modèles de langage regardent les mots depuis le début de la conversation, et à partir de ça font un calcul complexe pour avoir, alors désolé, ça va être un mot technique, une distribution de probabilité sur le dictionnaire. Donc c'est juste, étant donné les mots qui ont été dits jusque-là, il fait un calcul et il dit... Dans le dictionnaire, le mot suivant, il y a 49% de chances que ce soit celui-ci, 11% de chances que ce soit celui-ci, et 7% de chances que ce soit celui-ci, etc. Donc l'exemple typique, c'est la capitale de la Suisse est, et là, il n'y a pas 40 trucs possibles. Alors je pense que c'est un poil plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de textes américains, donc pense que l'américain moyen déjà ne doit pas savoir où est la Suisse, et s'il sait, il doit confondre Zurich et Berne. Donc là, on voit exactement le truc, c'est que il va y avoir une confusion, parce que tout ce qu'il fait, c'est imiter ce que diraient des gens en général, et les gens en général ne se trompent. Mais voilà, donc lui il suit la musique, si vous lui dites et après j'imagine qu'il y a des textes de fiction, donc il doit être, il peut être très confus si vous le mettez dans un contexte statistique. Si vous lui dites sachant que 2 plus 2 égale 5, à quoi est égal 3 plus 3, lui il faut qu'il suive avec la musique, il voit ce que vous avez écrit, donc qu'est-ce qu'il met après, il faut qu'il mette quelque chose.
Mais il répond, il dit
ah,
pas
il fera quelque chose, ça sera pas démonté. Alors maintenant ils ont OpenAI, voyant que les gens commençaient à utiliser ça pour des choses sérieuses et qu'il y avait probablement beaucoup d'argent à se faire, le gros effort technologique, c'est justement de mettre des garde-fous pour qu'ils ne racontent pas n'importe quoi.
Bon, on n'aura pas le temps de faire les 5 questions hein, que ChatGPT m'a proposé à vous poser ce matin, François Fleuret, parce que moi aussi j'en ai d'autres, des questions à vous poser. Mais quand même la deuxième que cette intelligence artificielle m'a suggéré à vous poser ce matin, c'est la suivante. Quels sont les défis actuels auxquels sont confrontés les développeurs de modèles de traitement de langage tels que ChatGPT et comment les surmonter? Là, on est dans ce que vous avez très rapidement évoqué il y a quelques minutes, on ne sait pas vraiment comment ça marche au final. Il y a des black box, il y a des zones d'ombre, c'est pas nouveau dans les intelligences artificielles, mais là, apparemment, il y a encore plus de black box qu'avant. C'est juste ou c'est faux?
Oui, mais je pense pas que c'est le... Alors, malheureusement, c'est pas le challenge principal. Donc, je pense que ce que vous dites est totalement vrai, et très intéressant, et dans certains cas très problématique, mais les challenges auxquels on est confronté en ce moment pour les modèles de langage... autant que je sache, les gens ne sont pas préoccupés par le fait qu'ils ne savent pas exactement comment ça marche. Ils sont préoccupés par le fait que, d'un point de vue purement comportemental, des fois, ils racontent n'importe quoi, et ça, c'est un problème. Et après, il y a un autre point technique, très très technique, c'est que plus il peut utiliser un contexte important, c'est-à-dire de quelle quantité de texte il peut tenir compte pour prédire ce prochain mot, est très important, parce que ce serait hyper agréable d'avoir un ChatGPT qui se souvient des 2 dernières semaines de discussion avec vous pour continuer à être cohérent dans sa discussion. Et là, techniquement, c'est très difficile. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais d'un point de vue calcul, c'est extrêmement lourd. Après, votre problème de... On ne sait pas comment ça marche. Effectivement, on ne sait pas comment ça marche. C'est-à-dire que...
Enfin, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'humanité, en gros.
Oui, mais là, il y a toute une discussion philosophique à avoir. Il y a plein de choses. Vous savez qu'il y a un article...
Je vais arrêter d'embêter le technicien que vous êtes, alors, François Fleuret.
Donc, je trouve, parce que c'est une question qui revient. Les gens sont très, avant ChatGPT, les gens, quand il s'agit de diagnostic médical il y a certains systèmes déployés pour évaluer les peines de prison des condamnés aux États-Unis. On a un peu envie de savoir comment ça marche dedans. Et pour les gros systèmes, on ne sait pas. Mais à nouveau d'un point de vue philosophique, qui n'est pas mon domaine premier, il y a un article Wikipédia sur les médicaments dont on ne connaît pas le mode d'action. Et personne ne s'angoisse de prendre des médicaments qui marchent sans savoir exactement comment ça marche. Donc l'IA en ce moment a un peu ce statut-là. On est content, ça marche assez, et on ne sait pas complètement comment.
François Fleuret, on a beaucoup parlé de la secousse que représentent ces nouvelles IA dans le domaine de l'éducation. Je ne résiste donc pas à vous faire écouter un adolescent vaudois rencontré par ma collègue Agnès Milo. Il lui a expliqué qu'il trichait allègrement avec ChatGPT.
Introduction d'anglais, ChatGPT, zéro faute. Aussi, mon introduction de français, c'était sur l'analyse d'un passage, acte 2, scène 2 de Molière, de la pièce Don Juan. Trop la flemme, je dois écrire 3 pages en plus. Allez, directement, ChatGPT. Et j'ai mis dedans, ça m'a sorti toute l'introduction. La prof, elle a été émoustifiée. Voilà, je viens d'inventer un mot, elle a été émoustifiée tellement que l'introduction, elle était parfaite.
Et les profs n'arrivent pas à voir que tu as triché.
Là, ils peuvent pas traquer le PHA, c'est impossible. Parce que cet outil, il prend l'information de tous les sites qu'il y a sur Internet, crée des belles phrases, crée des belles tournures, rassemble les informations, crée des vrais trucs. Et il nous sert sur un beau plateau, quoi. Elon Musk, si tu m'entends là, je t'aime.
Elon Musk, qui était l'un des cofondateurs d'ailleurs d'OpenAI. Vous, en tant que prof, François Fleuret, vous êtes aussi émoustifié.
Alors,
quand vous voyez les textes de ChatGPT.
Ah bah oui, alors donc complètement, parce que donc je ne cesse d'être émerveillé par étant donné à nouveau la technologie derrière et le but que résout ce système, qui est juste de prédire le prochain mot, que à la fin ça fasse des choses aussi sophistiquées dans des domaines aussi larges, je suis émerveillé. Mais je ne peux que le répéter aux auditeurs, ChatGPT raconte n'importe quoi une fraction non négligeable du temps. Donc vraiment, je supplie tout le monde de ne pas faire confiance à ce qu'il raconte. C'est un système qui a une énorme culture, qui produit du texte, qui est très policé, qui a l'air très sûr de lui, mais qui des fois dit des choses factuellement complètement erronées.
Mais ça veut dire qu'en matière d'information, il y a un gros risque, parce que là aussi on rédige dans les rédactions, là aussi on synthétise dans le journalisme, là aussi on résume ou on développe, on expose et on décortique. Donc ChatGPT et Bard auraient un impact pour l'instant positif ou négatif selon vous sur les médias?
Alors, à nouveau, il faudrait voir, je ne sais pas à quel point il y a déjà eu des études sur le nombre de faits sur lesquels il se trompe. Lui poser une question à froid comme ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Des tâches de résumé, de réécriture, ça, en général, c'est mieux parce que ça repose plus justement sur la structure du langage que sur les connaissances. Mais là, à nouveau, il ne faut vraiment pas dire... J'ai un discours important à écrire, je vais poser des questions factuelles d'histoire, de géographie ou de science à ChatGPT. Vraiment, il ne faut pas faire ça.
La société NewsGuard a publié une étude la semaine dernière sur l'impact que pourrait avoir ChatGPT sur la propagation de désinformation. Dans 80% des cas soumis, ce robot conversationnel a relayé de fausses informations sur le Covid, de fausses informations sur les fusillades aux États-Unis. Donc si je vous suis bien, François Flores, ça vous étonne pas du tout qu'il ait dit des bêtises?
Ah bah non. Après, 80% ça me paraît élevé. Ils ont dû choisir. Alors ils ont dû l'amener sur un terrain où
ils sont donnés de la peine. Ils le précisent aussi dans l'étude. Dans certains cas, les testeurs ont dû s'y reprendre à 5 fois pour que la machine déraille. Ça veut dire qu'il y a quand même des garde-fous dans le développement de ce robot conversationnel. On peut pas lui faire dire n'importe quoi.
Donc, les systèmes d'origine, GPT-3 et autres, n'ont aucun garde-fou, c'est-à-dire ils imitent simplement la structure statistique. ChatGPT, à nouveau, comme ce n'est pas des technologies ouvertes, on n'a pas les détails, mais clairement, ils ont activé. Donc, ChatGPT a une différence par rapport au GPT-3 et aux méthodes qui étaient développées auparavant, c'est qu'il a été légèrement modifié pour que des gens soient contents. C'est-à-dire que, à nouveau, je ne sais pas à quel point on entre dans la technique, mais GPT-3, qui est l'ancêtre de ChatGPT, vraiment ne fait que imiter la structure statistique du langage. ChatGPT, ce qu'a fait OpenAI, ils ont recruté 40 personnes, ils leur ont demandé d'écrire des réponses à des questions ou de ranker des réponses par qualité, à quel point ils étaient contents ou autre.
Donc il faut faire plaisir à l'utilisateur.
Il faut satisfaire l'utilisateur.
Satisfaire.
Et, voilà, et ils ont, autant que je sache, fait attention à qui étaient ces 40 personnes pour pas qu'il y ait des biais trop violents politiques ou idéologiques.
Oui. Mais on peut pas lui faire raconter une blague sur Jésus, par exemple.
Voilà, donc c'est ça. Alors après, ils ont activé... Voilà, donc là, je sais pas quel garde-fou ils ont activé, mais là, c'est devenu très très dur de... Il n'est pas très transgressif. C'est-à-dire que ChatGPT est très très... Et très très polissé. C'est extrêmement dur de...
Donc ça pose aussi des problèmes en matière de liberté d'expression. On ne peut pas lui faire dire ce que l'on veut en fonction de ses idées.
Exactement, mais donc là, la liberté d'expression, vous avez le droit de lui dire ce que vous voulez. Après, lui, visiblement, il fait très attention à ce qu'il dit. Et ce qui est extrêmement dur, parce que donc là, le grand jeu en ce moment, c'est ce qu'on appelle le jailbreaking, c'est de l'amener à dire des choses qu'on lui a dit de pas dire. Et il y a des exemples, donc j'invite les auditeurs à aller regarder ça sur le web, il y a des exemples extrêmement amusants.
Vous m'avez cité Cyrano de Bergerac en préparant cette émission, pourquoi ?
Alors là, on touche à des aspects qui, comme je vous disais, je suis un peu loin de mon camp de base. Ce que j'aime bien, c'est la technique, mais d'un point de vue sociologique et sociétal, on va tout droit vers des filtres, l'équivalent des filtres à beauté, mais pour le texte. C'est-à-dire que, enfin, il y a déjà des anecdotes de gens qui sont sur les sites de rencontres et qui, manquant de bagou, font tourner ChatGPT à côté et quand ils rencontrent quelqu'un qui leur plaît, utilisent ChatGPT pour avoir l'air plus éloquents que ce qu'ils sont réellement. Donc
comme on met un filtre pour être plus beau ou plus belle sur Instagram, par exemple, sur sa photo, son selfie, on pourrait appliquer un filtre beauté des textes comme Cyrano de Bergerac écrivait pour ses lettres d'amour que d'autres lisaient.
Ben, l'enthousiasme du jeune étudiant, là, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il est ravi de passer, en fait, pour ce qu'il n'est pas.
Pour terminer, je vous raconte quand même cet autre prompt que j'ai soumis à ChatGPT. Je lui ai demandé décris ton fonctionnement en alexandrin et en faisant rimer les vers à la Cyrano de Bergerac. Je vous lis ces quelques vers, François Fleury, en guise de conclusion. Alors il dit, c'est la machine qui dit: je suis ChatGPT, un orateur de grand talent. Avec une vitesse, je réponds sans défaut. Mon nez est mon modèle de langage qui traite les données sans dérangement. Je suis conçu pour fournir la réponse juste, basée sur les données que je peux enfouir. Pas d'ego ni de motivation, je n'ai juste un but, répondre, sans biais. Telle la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, je suis doté d'une grande verve, avec précision, je vous dirai le fait, sans fausseté, telle est ma devise.
Donc là, par exemple, il est beaucoup plus fort que moi.
merci beaucoup François Fleuret d'être venu pour nous décortiquer, nous expliquer un peu comment ça marche, cette intelligence artificielle. Et puis merci aussi d'être sorti un peu, de vous être éloigné un petit peu de votre camp de base. Vous qui êtes professeur à l'Université de Genève et à l'EPFL, spécialiste en machine learning, ou comment les machines apprennent par elles-mêmes. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.